Merci Père éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons tous ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Yes.
Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Si tu crois, même si tu es converti depuis des années, aujourd'hui est un jour nouveau pour toi.
Amen.
Alléluia. Aujourd'hui, tu dois te dire, Seigneur, je viens devant toi comme un enfant, comme quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais connu. C'est vrai, ça fait tant d'années que je suis à l'église, tant d'années que je suis chrétien, mais aujourd'hui, je veux te découvrir à nouveau.
Amen.
Dispose ton cœur pour recevoir la parole de l'évangile. Parce que ce soir, ce n'est pas un enseignement qui te sera donné. Je ne vais pas parler à des chrétiens ce soir. Quelqu'un me comprend ici? Je ne vais pas venir vous parler d'une théologie ou encore des lois spirituelles de quoi que ce soit. Oh, ce soir, je viens vous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du salut.
Amen.
Alléluia. Et afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux te dire ce soir que même si tu es chrétien, tu peux recevoir la vie éternelle.
Amen.
Alléluia. Parce que la vie éternelle n'est pas seulement donnée pour que ton nom soit inscrit sur le livre de vie, que tu sois sauvé pour aller au ciel. Mais la vie éternelle est aussi donnée à tout le monde. Même si tu es chrétien, tu as besoin de la vie éternelle. Alléluia. Parce que la vie éternelle, elle commence sur la terre avant de pouvoir se poursuivre dans le ciel. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu.
Alléluia.
La vie éternelle, c'est la vie de l'Esprit.
Alléluia.
Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible déclare, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin. Adam et Ève étaient déjà créés, ils étaient déjà chrétiens. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà remplis de la présence de Dieu. Ils avaient la nature de Dieu comme toi et moi. Tu as été créé à nouveau, tu es une nouvelle création. Cependant, Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. La Bible déclare qu'il a mis devant eux l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi l'arbre de vie. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, voici, mangez de l'arbre de vie, du fruit de l'arbre de vie et de toute semence portant la vie.
Amen. Amen.
Alléluia. Bien-aimés, même si tu es né de nouveau, tu es une nouvelle création, tu as été créé à nouveau, Dieu ce soir te place devant un choix. Il te dit, voici, tu as en face de toi la vie et la mort, mais choisis la vie.
Amen.
Alléluia. Choisis la vie. Et Dieu parle à quelqu'un ce soir. Choisis la vie.
Amen.
Il est venu pour te donner la vie. La vie en abondance. Même si tu es chrétien, je ne suis pas venu parler à des chrétiens. Je ne suis pas venu parler à une religion. Je ne suis pas venu parler à une église. Je suis venu parler à un être humain. À quelqu'un qui a besoin de la vie de Dieu. Dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Et je prie ce soir que si tu n'as pas encore reçu cette vie dans ton esprit, ça veut dire que ton esprit est déjà mort à cause du péché. Ton esprit est encore mort. Si tu n'as pas encore reçu la vie de l'esprit, la vie de Dieu dans ton esprit, que ce soir tu reçoives Jésus-Christ dans ton cœur et que tu reçoives la vie de l'esprit. Et si tu es déjà chrétien, ça veut dire que Jésus est dans ton cœur. Et la vie de Dieu, la vie de l'Esprit est déjà dans ton cœur. Gloire à Dieu. Maintenant ce soir, le message de la bonne nouvelle va t'amener à expérimenter la vie de l'Esprit dans ton âme. Et si tu me dis, oh pasteur, je suis déjà rempli de la vie de Dieu dans mon âme, car avant de venir, j'ai prié. D'ailleurs, je fais partie du groupe d'intercession. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as besoin d'être rempli de la vie de l'Esprit dans ton corps. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Il est venu pour donner la vie. Alléluia. Alléluia. Tu peux te rasseoir là où tu es. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. La Bible déclare que le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oh, cette parole est venue sur la terre, dans le monde. Elle est venue chez les siens. Les siens n'ont pas reçu. Cette parole était la lumière qui éclaire tout homme qui marchait dans les ténèbres. Et la Bible déclare cette parole, cette lumière était la vie. Alléluia. En elle était la vie. Oh, alléluia. Et je prie ce soir que la parole soit vie en toi. Que pendant que je suis en train de prêcher, la vie de la parole à travers l'esprit soit véhiculée dans ta vie, soit véhiculée dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Et qu'au moment où je prêche la parole, que cette parole soit esprit et vie. Qu'elle suscite en toi la foi nécessaire pour saisir ton miracle ce soir. Alléluia, dis à ton frère, on va passer 2 jours exceptionnels. 2 jours, dites 2 jours. Alléluia. 2 jours de miracles, de guérison, de délivrance, de paroles prophétiques, de paroles de connaissance. 2 jours, comme Jésus a fait 2 jours dans le tombeau. Il est mort à la croix. Il a été crucifié. Il l'a enterré. Il est resté 2 jours dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. Alléluia! Oh, mais c'est 2 jours aujourd'hui où nous allons vaincre la mort. Pendant 2 jours, Jésus a combattu la mort. Il a vaincu la mort. Le 3e jour, c'était le jour du triomphe. C'est le jour où Jésus a proclamé sa victoire sur la mort. Sur la maladie, sur les démons, sur les sorciers, sur Satan. Alléluia! Je suis en train de te dire aujourd'hui qu'après ces 2 jours, le 3e jour pour toi, ça va être lundi. Quand tu vas te réveiller lundi, tu seras ressuscité. Amen. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia! Quelqu'un acclame Jésus. C'est-à-dire que tu sortiras de ton tombeau. Oh, je déclare au nom de Jésus qu'après ces 2 jours, tu sors de ton tombeau. Tu sors du tombeau de la mort au nom de Jésus. Vous savez, la mort, ce n'est pas la cessation de vie sur la terre. La mort, je vous ai parlé de la vie au début. Il a dit, je mets devant vous la vie et la mort. La mort, en fait, c'est l'absence d'une substance divine qu'on appelle Zoé Aionos. Cette substance qui fait que l'être humain soit à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, en bonne santé divine, qu'il soit prospère, qu'il réussisse, qu'il ait du succès. En fait, cette substance que Dieu a inoculée dans l'esprit de l'homme, le jour où il a créé à son image, à sa ressemblance. Le jour où l'homme a péché, il a perdu cette substance. Et c'est pourquoi la Bible dit, tu mourras. Il dit à l'homme, tu mourras. C'est-à-dire que, en fait, tu vas perdre cette vie. Et quand la mort est venue, en fait, l'homme a commencé à constater des changements dans son métabolisme. Déjà, son esprit était mort. C'est-à-dire que son esprit était endormi aux choses de Dieu. Son esprit ne pouvait plus percevoir les choses de Dieu. Les sens de son esprit étaient éteints. Parce que la mort l'avait affecté. Donc son esprit ne pouvait même plus communiquer avec Dieu. Son esprit ne pouvait même plus, en fait, ressentir les choses de Dieu. Son esprit commençait à voir Dieu autrement. Quand Dieu apparaît, son esprit a peur de Dieu. Son esprit fuit. Son esprit commence à avoir honte. Dieu se pose des questions, mais qui t'a appris que tu es nu? Parce que la mort était déjà entrée en lui. Alors d'autres sentiments sont nés. Parce que la mort était arrivée. Et son corps aussi a commencé à changer. Il y a eu des modifications dans le métabolisme du corps. Il y a eu des modifications dans les lois naturelles du physique. Et il a commencé à connaître ce qu'on appelle la douleur. Et c'est pourquoi Dieu dit à la femme, dorénavant tu enfanteras avec douleur. Le mot douleur n'existait pas avant. Quelqu'un me comprend ici? Même dans le lieu géographique où ils étaient, ils ont commencé à constater des modifications dans la nature. Et la nature a commencé à faire pousser des épines et des ronces, chose qui n'existait pas avant. Parce que la mort est rentrée à travers le péché. Bien-aimé, Adam ne connaissait pas épines. Adam ne connaissait pas ronces. Adam ne connaissait pas aïe. Adam ne connaissait pas maladie. Il ne connaissait pas souffrance. Mais quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors la mort est entrée. Et la vie s'est retirée. Regardez, quand quelqu'un meurt physiquement, son esprit n'est plus. Qu'est-ce qui se passe? Dans les quelques jours qui vont suivre, le corps commence à se décomposer parce qu'il n'y a plus de vie. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand on parle de mort spirituelle, c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que là, tu es vivant humainement, mais en fait, ton corps se décompose. Tu commences à voir des maladies atteindre ton corps. Tu commences à voir des trucs bizarres sortir de ton corps. On parle d'infirmité, on parle de cécité. Non, tout ça c'est quoi? En fait, c'est ton corps qui est en train de se décomposer pendant que tu es encore debout. C'est l'image de ce qui s'est passé spirituellement. Quand l'homme a perdu la mort est entrée en lui. Et quand la mort est entrée en lui, il a commencé à connaître la douleur, la maladie, la souffrance. Il a commencé à connaître les épines, les ronces. Il a commencé à connaître d'autres sentiments qui n'étaient pas avant. Il ne connaissait pas déception. Trahison, il ne connaissait pas. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le premier livre de la Bible, la Genèse, débute par une phrase. Au commencement. Le premier livre qui présente la nouvelle création. Je parle du livre de Jean. L'évangile de Jean, le premier livre qui présente, qui introduit la nouvelle alliance avant les actes apôtres, c'est l'évangile de Jean. Le premier livre de la nouvelle alliance commence avec la même phrase. Au commencement. Dis à ton frère, suivons-le. Il nous amène quelque part. Alléluia! Genèse chapitre 1, verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quelqu'un est en train de dire, mais il commence à prophétiser quand? Tape sur l'épaule de quelqu'un à côté de toi. Dis, reste calme. Il a commencé à prophétiser. En fait, il parle de toi. Suis-le. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mon frère, notre Dieu s'appelle le Dieu créateur. Dieu là, quand on dit au commencement, le mot commencement là, ce n'est pas le commencement d'ici. C'est-à-dire que le commencement de Dieu, ce n'est pas le commencement de l'homme. Parce que le commencement de l'homme a un début et une fin. Mais le commencement de Dieu s'inscrit dans l'éternité. Parce que Dieu est éternel. Donc le commencement de Genèse chapitre 1 ici, c'est le commencement du commencement. C'est-à-dire que c'est le commencement avant même que la matière n'existe. Et le commencement était la parole. Et le mot parole là est traduit par l'information. Le commencement était l'information. Avant que la matière n'existe, c'est l'information qui a existé. Dis à ton frère, suis-le. Il nous amène quelque part. Et la Bible déclare, au commencement, Dieu, le mot Dieu là, en hébreu, c'est Elohim. Ce n'est pas Dieu le Père, non. Le mot Dieu là, c'est Elohim, qui veut dire en français Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Au commencement, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit créa, un bon français de souche, fils de Molière et de Descartes, est en train de me dire, mais attends, ce n'est pas créer. Non, créer, c'est la grammaire de l'Académie française. Mais la grammaire biblique, tu étais au commencement, c'est-à-dire avant que la matière n'existe, avant que Descartes n'existe, avant que Molière n'existe, avant que l'Académie n'existe, avant que leur Panthéon n'existe. Je parle de celui-là. Alléluia. Dans sa grammaire, il ne distingue pas le Père du Fils et du Saint-Esprit. Il les met ensemble. Il les appelle Elohim, un seul Dieu. C'est pourquoi il dit « Créa ». Alléluia! Est-ce que j'accélère? Est-ce que j'accélère? Dis à ton frère, notre Dieu là, c'est le Dieu qui a même inventé la grammaire. Il connaît la conjugaison mieux que toi. Donc là, c'est-à-dire que créa ici s'accorde en genre et en nombre avec Elohim. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Donc, tu comprends pourquoi je dis que ton commencement n'est pas le commencement de Dieu. Parce qu'avant que ta grammaire, ton orthographe, tes conjugaisons, tes concordances de temps n'existent, ah, il y avait déjà un temps qui existait avant ton temps. Alléluia. L'information existait. Voilà pourquoi notre Dieu, Elohim, s'appelle l'Alpha et l'oméga. C'est quoi l'alpha et l'oméga? Ça veut dire le A et le Z. Ah, t'as vu? Ils ont suivi, n'est-ce pas? On acclame le Seigneur. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu le suis? Parce que moi, je le suis. Voilà. Donc, l'alpha et l'oméga, ça veut dire le A et le Z. Maintenant, suis-moi. Quand on dit le A et le Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'alphabet. Non, l'alphabet là, c'est Dieu. Voilà pourquoi le commencement était la parole. C'est-à-dire le commencement était l'alphabet. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Quand je lis ma Bible, je vois plusieurs mots. Tous les mots qui sont dans ma Bible sont écrits avec des lettres. Et ces lettres-là sont des lettres comprises entre A et Z. Quelqu'un peut comprendre ici? Donc, ce sont des lettres qui sont dans l'alphabet. Donc, si mon Dieu s'appelle Alpha et Oméga, ça veut dire que tous les mots, tous les noms sont contenus dans mon Dieu. En fait, ils ne m'ont pas encore compris. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais te dire, quand tu vois quelque part, le médecin, il t'a diagnostiqué. Puis il t'a sorti son verdict. Et que sur le verdict, sur un petit bout de papier, matière, est inscrit en grandes lettres alphabétiques le mot cancer. Sache que cancer s'écrit avec un C, avec un A. Oh! Alléluia! Oh, ils ont compris! Oh, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Ça veut dire que cancer même est maîtrisé, est phagocyté dans Jésus. Parce qu'il est la parole. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Alléluia. Et donc quand on dit au commencement était la parole, ça veut seulement dire qu'avant que cancer n'existe, Jésus existait. Je n'ai pas fini. Si on t'a dit que non, ta vie là, en fait, ça ne marche pas parce que ton grand-père, ok, Nzunguru, a attaché tes pieds sur le tronc d'un arbre et a piqué au fond des racines. Donc, ça veut dire qu'il a prononcé sur ta vie des malédictions. Arrête-toi et pense-y. Grand-père s'écrit avec G. R-A-N-D. Ça veut dire, ce sont des lettres de l'alphabet. Ce sont des composantes de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que même grand-père ne peut rien faire contre ma vie si Jésus le permet. Quelqu'un me comprend ici? Ça veut dire que si Jésus a permis que grand-père aille attacher dans un coin de la forêt, ce qui est attaché, on ne sait pas quoi, avec ton nom. le même Jésus qui a été au commencement de l'histoire. Quelqu'un me comprend? Avec le même Jésus qui a permis au commencement l'affaire. Le même Jésus qui est l'alpha et qui est l'oméga. Ce même Jésus qui a laissé faire au début. C'est le même Jésus qui mettra un terme à cette histoire. Acclame ton Dieu! Acclame ton Dieu! Alléluia! S'il a permis que ça te touche, il permettra aussi que ça s'arrête. Il est l'alpha et le méga. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia! Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même le mot sorcier là, malédiction, est contenu dans alpha et oméga. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Beaucoup m'ont compris, mais quelqu'un ne m'a pas compris. Frère Dimitri, lève-toi. Je vais expliquer pour ceux qui ont besoin d'images. Parce que quand on parle à un public comme ça, il y en a qui sont mémoire visuelle, d'autres mémoire auditive, d'autres mémoire kinesthésique. Ils veulent toucher Saint Thomas. Il devait être un bon kiné. Hein? Saint Thomas, avance mon frère. Mon frère ici, viens. Oui, viens. Alléluia. Mets-toi là. Ma soeur, toi, viens. Mets-toi là. Alléluia. Avance ici, mon frère. Je parle du commencement était la parole. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, à la fin, on trouve quoi? La parole. Il dit que l'Esprit et l'Église disent, viens Seigneur. On retrouve la parole. Alléluia. La parole est au début, la parole est la fin. Maintenant, le problème, c'est qu'entre les deux, il y a des composantes. Chacun utilise les lettres de l'alphabet comme il veut. Il y en a qui utilisent pour bénir, d'autres pour maudire. Il y en a qui utilisent la parole pour faire du bien, d'autres qui utilisent pour blesser. Mais dans tout ça, ils ne savent pas qu'en fait, ils sont maîtrisés par la parole elle-même. Parce qu'au commencement de toute chose, c'est la parole. Et à la fin, c'est la parole. Quelqu'un me suit ici. Voilà la parole. Elle est ici au commencement. Alpha. A. Elle est ici à la fin. Oméga. Z. Maintenant, toute notre vie sur la terre, nous la vivons entre l'alpha et l'oméga. Alléluia! Maintenant, ma soeur, tu vas jouer ce rôle pour un moment, mais tu n'es pas ça, ok? Tu vas jouer épreuve. Tu vas jouer peut-être attaque. Tu vas jouer malédiction, tout ça. Non, tu tapes de chaque côté. Tu tapes de chaque côté, ok? Allez, tape. Tape ici. Tape, 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 tape. Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle-même, elle s'en sort? On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia! Alléluia! Pourquoi elle ne s'en sort pas? Parce qu'elle est neutralisée. Elle est maîtrisée. Oh, quelqu'un ici acclame ça. Oh, alléluia! Je suis en train de te dire ce soir que ta maladie est maîtrisée entre alpha et oméga. Malédiction est neutralisée entre alpha et oméga. Oh, alléluia! Sorcier même est maîtrisé entre alpha et oméga. Écoutez-moi, Satan s'écrit comment? Oh, alléluia! Alléluia! Satan s'écrit avec un S, A, N, oh, on reprend. S, A, T, A, N. N'est-ce pas? Ça donne Satan. Donc, Satan est compris entre A et Z. En d'autres termes, Satan est maîtrisé par l'alpha et l'oméga. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Oh! Je suis en train de te dire ce soir que la maladie là est maîtrisée par la parole. Jésus est la parole. Sorcier est maîtrisé par la parole. Dépression est maîtrisée par la parole. Dépression c'est des... Encore Est-ce qu'on est arrivé à Z?
Non.
Il est maîtrisé par... On acclame Jésus. Alléluia! Quelqu'un me comprend ici? Il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune situation, il n'y a aucun esprit qui ne soit maîtrisé par l'alpha et l'oméga. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu plus fort. Asseyez-vous, merci. Alléluia! Au commencement était la parole. Mais voyez-vous, quand Dieu crée le monde, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Ah! Ce verset-là, ça me chagrine un petit peu. Ça me titille et ça m'a tellement titillé que je me suis dit, c'est pas normal. Il faut que j'aille chercher pourquoi c'est écrit que la terre était informe et vide. Parce que le Dieu que je connais était un Dieu bon. Dites, Dieu est bon. Et un Dieu bon ne crée que des bonnes choses. Quand il a créé la terre, elle veut dire qu'il a trouvé que c'était bon. Quand il a créé l'homme, il a trouvé que c'était très bon. Alléluia! Et quand il a créé la femme, oh, il n'y avait plus de mots. C'était la cerise sur le gâteau. Ah, merci pour ma femme, Seigneur. Ah, je prie pour les célibataires. Alléluia! Recevez l'onction de la grâce! Afin que vous passiez du bon au très bon et du très bon à l'excellent. À la distinction. Amen, amen. Bon, c'est une petite parenthèse prophétique pour les célibataires. Saisis ta grâce, fais comme ça. Alléluia. Et j'ai cherché, je dis, c'est pas normal. Et un Dieu si bon, qui m'a habitué à voir quand il crée quelque chose, que c'était bon, c'était bon, c'était très bon. Ce même Dieu va créer une terre informe et vide. Ça vient d'où ça? Il ne m'a pas habitué comme ça, ce Dieu. Mais remarquez bien. Il dit, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Donc ça veut dire que les cieux et la terre ont été créés au même moment. Quand? Au commencement. Comment deux choses qui sont créées au même moment par un Dieu aussi bon et même très bon, excellent est son nom? Il y a une qui est remplie de sa gloire. Les cieux des cieux. Remplie de sa gloire. Et il y a une autre chose qu'on appelle la terre. Qui est informe et vide. En hébreu, on dit chaos. Hein? Tohu bohu. C'est ça le mot en hébreu. Tohu bohu. Chaos. Mon Dieu n'est pas un Dieu de chaos. C'est pas un Dieu de tohu bohu. C'est pas un Dieu de désordre. C'est pas un Dieu d'incohérence. Non, je ne connais pas ce Dieu. Il ne m'a pas habitué à cette caractéristique. Je ne connais pas un tel Dieu. Alors ça m'a poussé à aller chercher. Et en cherchant, quand vous voyez les choses de Dieu qui sont écrites dans notre français de Molière, ne vous arrêtez pas à ça. Allez chercher. Parce que vous voyez, comme j'aime souvent dire ici, pour ceux qui me connaissent, la Bible n'est pas un livre à lire en première lecture, on s'arrête là. La Bible est comme un gisement. Quand vous voulez découvrir des ressources, des pierres précieuses, ce n'est pas en surface que vous allez les trouver. Il faut creuser, creuser. Vous allez remarquer que toutes les richesses qui contribuent au développement des nations, des pays, pour les trouver, il faut aller dans le sous-sol. Première couche, deuxième couche, on va. La parole de Dieu est comme ça. Première lecture, là, c'est bien. D'être fait des profondeurs. Ah! Alors, je suis reparti dans la Torah, le livre hébreu. L'Ancien Testament, quand vous lisez ce texte-là dans la traduction hébraïque, il n'est pas dit qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Non. La terre était informe et vide, c'est la traduction française. Mais la traduction hébraïque dit ceci. Écoutez-moi bien. Ça change tout dans notre compréhension. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre est devenue informe et vide. J'ai dit, ah, ok. Là, je comprends. Ça veut dire quand Dieu a créé les cieux et la terre, tous les deux éléments étaient remplis de sa gloire. Tous les deux éléments, il y avait la lumière. La lumière, c'est la gloire de Dieu. Amen, amen. Maintenant, la Bible déclare, la terre, contrairement aux cieux, est devenue informe et vide. La terre a été détruite, la terre a été dépouillée, la terre a été vidée de sa substance d'origine. Et la terre est devenue un tohu-bohu, un chaos. Donc, ce n'est pas Dieu qui a créé la terre de la sorte, et ce n'est pas Dieu qui en est responsable. Dieu parle à quelqu'un ici. Tu te poses des questions. Si réellement Dieu existait, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie n'est qu'échec? Pourquoi ma vie n'est que maladie? Pourquoi ma vie n'est que souffrance? Et tu commences à accuser Dieu. Tu commences à haïr Dieu. Tu commences à te fâcher, à dire, si vraiment Dieu existait, non, tes choses ne seraient pas ainsi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. En réalité, ta vie est comme elle est aujourd'hui. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Parce que quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé comme ça. Il ne t'a pas créé malade. Il ne t'a pas créé infirme. Il ne t'a pas créé paralysé. Il ne t'a pas créé aveugle. Quelqu'un me comprend ici? Quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé dans la situation où tu es aujourd'hui, dans la souffrance, dans la maladie. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Quelque chose s'est passé avant le verset de Genèse chapitre 1 là. Quelque chose s'est passé. Parce que vous voyez, Genèse, c'est un livre qui a été écrit par un homme qu'on appelle Moïse. Et Moïse n'a pas existé au temps d'Adam et Ève. Moïse a existé des années plus tard, des siècles plus tard. Il a existé après Noé. Il a existé longtemps même après les patriarches. Vous me suivez? Après Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Moïse est venu après. Mais comment Moïse va savoir comment Dieu a créé le ciel, la terre, et comment il a créé les arbres, comment il a créé l'homme, etc. C'est lorsque Moïse va sur le mont de Sinaï, à la rencontre de Dieu, dans ses temps de prière et de méditation, l'Éternel Yahweh se révèle à lui et lui donne une vision. Et quand il donne la vision, il demande d'écrire ce qu'il voit, comme il le fait avec tous ses prophètes, comme il l'a fait avec Jean dans l'Apocalypse, pour lui montrer l'avenir. À Jean, Dieu lui montre l'avenir. Mais à Moïse, Dieu lui a montré le passé. Vous me suivez? Mais comme vous le savez, la vision que Dieu peut nous donner est forcément limitée par notre perception humaine. Et on va écrire ce qu'on voit en fonction de ce que nous sommes êtres humains. Mais ça ne reflète pas la totalité de ce qui est en réalité. Ce n'est que le reflet. Ce n'est qu'une ombre. Quelqu'un me comprend ici? Quel est mon point? Je me dis qu'en fait, quand Moïse parle de ça, en fait, il y a un détail qui ne ressort pas. C'est que ce détail-là, pour le trouver, il faut lire Job. Il faut lire l'histoire d'un être qui était dans le ciel à l'époque, avant même que la terre n'existe. Ce être-là, la Bible l'appelle un astre brillant, qui était à côté de Dieu et qui avait reçu de Dieu le pouvoir au point qu'il était comme Dieu, mais il n'était pas Dieu. Et ayant conscience des pouvoirs qu'il avait, il s'est dit, mais donc moi aussi, je peux être Dieu. Je peux monter sur le trône de Dieu, m'asseoir et être là comme lui. Cet être s'appelle Lucifer. Et quand il a eu cette intention, la Bible dit que lorsque l'iniquité se fut trouvée dans son cœur, Dieu lui a dit, ah, il n'y a pas de place pour l'iniquité dans ma présence, dans mon ciel. Alors la Bible nous dit que Dieu l'a précipité où? Plus fort? Ah! Et qu'est-ce que Jésus nous dit à son sujet? Il dit que quand le diable vient, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et l'Apocalypse nous dit, malheur à vous la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps à vivre. Ça nous révèle quoi? Ça nous révèle en fait l'acharnement que le diable a contre la terre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne va pas se faire qu'en Apocalypse. Ça s'est fait déjà depuis. Et il continue de le faire. Dérober, égorger et détruire. J'ai une révélation à vous faire. Quand la Bible nous dit que Dieu a interdit à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il n'y a que Dieu qui pouvait avoir la connaissance du bien et du mal. Eh oui, le péché que Lucifer a commis dans le ciel, c'est justement de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour avoir la connaissance de certaines choses que seul Dieu détenait. Alors il a eu la connaissance qu'un jour Dieu créera la terre, et la terre qu'il a créée là, c'était pour, il va créer l'homme et il va le placer là-bas. Il dit, ah bon, et moi qui veux régner, alors le mal l'a inspiré une stratégie machiavélique pour détruire le royaume que Dieu voulait donner à l'homme. C'est pourquoi quand on envoie le diable sur la terre, il dit, moi, je ne veux pas descendre tout seul avec mes anges. Le tiers des anges a suivi Lucifer dans le mal. Quand il est descendu en fracas. Il s'est acharné sur la terre. Il est venu, il a détruit la terre. Vous me suivez? Et quand il a détruit la terre est devenue informe et vide. Voici l'origine. Oui, mon frère, c'est ça la vérité. Fais encore. Ouais, c'est ça la vérité. Quand on lit la Bible, hein, en fait, il y a des versets qu'il faut rassembler pour faire des liens de connexion, pour comprendre le sens d'une histoire qui existe quelque part, qui ne peut avoir sa signification qu'ailleurs. Quelqu'un me comprend ici? Dis à ton frère, ça c'est l'évangile. Ma soeur, tu as compris? Voilà. Ça, c'est mon souci, que même le plus simple comprenne. Quand tu as compris ça, maintenant, tu vas comprendre ce que je t'ai dit aujourd'hui. Ça, c'était de poser les fondations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé terre. Tu es une terre. Ma soeur, tu es une terre. Mon frère, tu es une terre. La Bible déclare que Dieu prit la poussière de la terre. Il forma l'homme. Quelqu'un me comprend ici? Tu es fait de terre, tu es fait de poussière. Et il a injecté dans cette terre son souffle de vie. Quand le diable a vu ça, il dit, quoi? Non, ce n'est pas possible. Et quand le diable a vu que Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance, il s'est dit, je sais comment détruire la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, tu deviens l'ennemi numéro un du diable. Parce qu'il sait que Dieu, dans son plan divin, a prévu depuis longtemps de te donner la terre. Et si tu as créé à base de la terre, c'est parce qu'en fait, tu dois être aussi le reflet de ton environnement. Alléluia! Je prends un exemple. Vous connaissez le criquet vert? Qui a déjà vu le criquet vert? Voilà. Prenez un criquet vert. Vous le mettez dans une herbe verte. Allez le chercher. Non seulement il est à l'aise, mais en même temps on ne le voit pas. C'est ce que Dieu a voulu faire de toi. Il a voulu faire de toi un élément insaisissable par le diable. En fait, il t'a créé avec la nature de ton environnement pour que tu sois invisible face au diable. Que tu sois insaisissable face au diable. Il a dit, afin qu'il domine. C'est toi qui dois dominer, qui dois contrôler, et non le diable te contrôler. Et ça, Satan ne pouvait pas supporter ça. Voilà pourquoi il a dit, il faut que j'arrive à lui arracher ce pouvoir d'être incontrôlé, d'être quelqu'un qu'on ne maîtrise pas, pour que moi maintenant, je puisse utiliser ce pouvoir-là pour gouverner la terre, pour maîtriser la terre, pour saisir tous les éléments, et que lui maintenant, il soit sous mes pieds. Et vous connaissez l'histoire, il a tenté Adam et Ève, ils ont mangé l'arbre, la connaissance du bien et du mal, vous connaissez l'histoire, la même chose. Et puis, il a récupéré le pouvoir dans ses mains. Et la preuve que c'est l'homme qui a donné son pouvoir à Satan, c'est Satan lui-même qui le dit. Dans, vous lirez dans Luc chapitre 4, dans les évangiles, la tentation de Jésus. Il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai les royaumes de la terre et leur pouvoir, leur puissance, car ils m'ont été donnés. Par qui? Certainement pas par Dieu. Par l'homme. C'est là que l'homme a perdu le pouvoir. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Alléluia! L'homme a perdu le pouvoir, il a perdu le contrôle. Au lieu qu'il soit insaisissable, au lieu qu'il soit incontrôlable, au lieu qu'il domine, c'est maintenant lui qui est dominé. C'est-à-dire que Satan même, c'est comme s'il y avait un criquet vert, camouflé dans une verdure bien verte. Satan arrive à te voir. Chii! Comme dit le prophète au combat, il y a un problème. Toi qui devais être invisible, tu deviens visible. Il y a un problème. C'est-à-dire que si tu avais gardé ta nature initiale, tu serais invisible. Moi, je n'ai pas peur aujourd'hui. En tant que chrétien, né de nouveau, j'ai retrouvé la nature qu'Adam avait, qu'il avait perdue. Je peux arriver dans un endroit où il y a les sorciers. Je suis invisible. J'ai dit quoi? Le premier homme a été créé de la poussière de la terre. Je sens qu'on va se régaler ce soir. Et cet homme a été dompté par le diable. Le diable, son but, c'est de détruire la terre. Il a fait au commencement, il le fait avec Adam et Ève, fait de terre et de poussière, et il est à la recherche de la terre. Parce que lui, il a un problème avec la terre. Et il court après la terre. Et il veut en finir avec la terre. Et en même temps, il veut récupérer la terre, gérer, la dominer. Quelqu'un me comprend ici? Maintenant, regardez, quand le diable a tenté Ève et Adam et qu'ils ont péché, qu'est-ce que Dieu dit à Satan? Il dit, tu mangeras de la poussière. Ah! Dieu a créé la terre pour donner à l'homme. Il a créé l'homme, la poussière, la terre. Maintenant, il donne pour nourriture au diable la terre. On fait comment maintenant, Seigneur? Non seulement il a arraché notre pouvoir, mais en plus de cela, tu nous donnes à manger. On devient sa nourriture. Vous me suivez? Oh, mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Ah, il est l'alpha et l'oméga. Il a le commencement et la fin. Il faut que la fin, là, il termine avec. Quelqu'un me comprend ici? J'imagine Satan en train de se régaler. Mais Dieu avait un plan. Regardez comment le plan salvateur, le plan rédempteur de Dieu commence depuis la Genèse. Il va le chercher où? Dans la faute de l'homme et dans la tentation de Satan. Il va sortir ça, il va confondre Satan. Il va dire à Satan, toi, dorénavant, pour marcher, tu vas ramper sur ton ventre et tu vas manger la poussière de la terre. J'imagine Satan se réjouit comme enfin. Parce que quand on dit tu vas manger la poussière de la terre, n'oubliez pas que l'homme a été créé de la poussière de la terre. Ça veut dire que l'homme, en ce moment, devenait la nourriture du serpent. Imaginez, mais ce n'était pas fini. Parce que au moment où le diable s'est réjoui, il avait oublié que Dieu a dit à la femme. Et Dieu a dit, il dit quoi à la femme? Il dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Oh! Alléluia! Alléluia! Ça veut dire que le premier homme a été créé de la poussière de la terre. Il a été dominé par le diable. Le pouvoir est arraché par le diable. Il est mangeable par le diable. Mais Dieu est en train de prophétiser sur une nouvelle race de personnes qui ne seront pas mangeables par le diable, mais dont la postérité écrasera la tête du serpent. Quelqu'un ici acclame Jésus. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Et quand on quitte la Genèse, on arrive maintenant dans le Nouveau Testament. La Bible déclare que Dieu se révèle à une femme qui s'appelait Marie. Il dit quoi? Il dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et un saint enfant naîtra de toi. Cet enfant ne sera plus mangeable par le diable. Parce qu'il ne sera pas né de la poussière de la terre. Ah, je sens la joie. Alléluia. La parole. Alléluia. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Est-ce que tu sens quelque chose là? Alléluia. Dieu en a fini avec la postérité de la terre. Il a dit, Satan, tu voulais la terre? Prends la terre. Prends même l'homme créé la poussière de la terre. Mange la terre. Si tu crois que c'est une nourriture. Imaginez quelqu'un, le matin, petit déjeuner, la terre. À midi, la terre. Le soir, la terre. À 16h, goûter, la terre. Dis à ton frère, quelqu'un acclame Jésus. Je refuse. Pourquoi? Parce que dans la terre, là, il y a problème. Dans la terre, il y a le calcaire. Dans la terre, là-bas, il y a les épines. Il y a les ronces, il y a le quoi sur le corps. Dans la terre là-bas, il y a toutes les maladies. Quelqu'un me comprend ici? Oui, la terre était déjà maudite. Oui, la terre était déjà... Parce que Dieu, quand il maudit Satan, le serpent, quand il se retourne vers l'homme, en fait, il ne maudit pas l'homme. Est-ce que Dieu a maudit l'homme? Quand il finit avec Satan, il se retourne vers l'homme. Qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il dit à l'homme, Dieu avait un problème, entre guillemets. Viens, mon frère. Voici Adam. On acclame Jésus. Voici Adam. J'ai envie de prendre Ève, mais j'hésite. Mais j'ai pas envie qu'on croit que c'est une prophétie. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Bon, on va se limiter à Adam. On va se limiter à là, ok? Voilà. Donc, voyez-vous, voici Adam. Ok? Donc, maintenant, Adam a péché avec Ève. Non, mais imaginez Ève. Donc, Adam s'est justifié que non, voilà, la femme que j'ai mise à mes côtés, tu es déjà fâché. Dieu arrive, il règle les comptes de Satan. Et quand il se retourne vers l'homme, il regarde l'homme. Il dit, ah, Adam, vraiment, c'est compliqué. Parce que n'oubliez pas que Dieu avait déjà béni Adam. Sois fécond, multiplie, remplis la terre, etc. Donc, Adam était béni. Or, la Bible dit que lorsque Dieu bénit, il bénit éternellement. Dans notre version, on dit pour l'éternité. Pour l'éternité, c'est pour l'éternité. Donc, Dieu a un problème. Dieu a un problème là. Une équation à résoudre là. Donc, il a déjà béni Adam pour l'éternité. Mais Adam a péché. Et il mérite la malédiction. Le problème, c'est que Dieu ne sait pas comment on superpose la malédiction sur la bénédiction. Voici son problème. Parce qu'il lui bénit seulement. Maudire là, c'est pas. Non, il ne sait pas comment le faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, je ne peux pas maudire l'homme que j'ai déjà béni, sinon je me contredis moi-même. Donc il se retourne à gauche, à droite, il regarde Satan, il a déjà maudit Satan. Il dit, bon, ce que je lui ai donné là, c'est déjà suffisant. Mais je fais quoi avec la malédiction d'Adam? Je fais quoi avec? Et la Bible déclare, et Dieu maudit la terre. Donc la malédiction qui était pour Adam est partie où? La terre. Dieu a piégé Satan. Hey, alléluia! Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Satan était content que, j'ai eu la terre. C'était un cadeau empoisonné. Parce que la terre, là, qu'il voulait, et dont il se réjouissait d'avoir reçu, a été déjà maudite. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia! Et c'est la terre, là, que Dieu donne à Satan pour manger. Mange la terre. Donc, il mange malédiction. Il mange épine. Il mange ronce, il mange la mort. Voilà les maladies, etc. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il dit, attends, reste tranquille. Il parle à la femme, il dit à la femme, tu accoucheras avec des douleurs. Et on dit que c'est une malédiction. Il dit, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. Là, ce n'est pas une malédiction, frère. Parce que quand il dit, je vais augmenter, ça veut dire que la femme accouchait déjà avec des douleurs. Parce qu'on augmente que quelque chose qui existe déjà. D'accord? Voilà, il n'a pas dit, dorénavant, tu accoucheras avec des douleurs. Non, il a dit, je vais augmenter les douleurs, les souffrances des grossesses. Pourquoi? On croit que c'est une malédiction. Parce que enfanter la postérité qui écrasera la tête du serpent, le corps de l'être humain ne peut pas supporter ça. Est-ce que tu peux supporter de porter la gloire de Dieu dans ton corps? Pas facile, n'est-ce pas? La gloire de Dieu dans le corps humain, pas facile. En fait, Dieu est tenté de prophétiser sur la femme que malgré ce que tu as fait, je t'ai pardonné, je t'aime toujours. Et de toi, femme, qui a péché, la postérité qui écrasera la tête du serpent naîtra de tes entrailles. Mais ça va être au prix de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que cet enfant-là porte les souffrances de toute l'humanité. Et les souffrances de toute l'humanité, là, toi, la mère, tu vas les ressentir dans tes entrailles. Tu vas porter, tu vas sentir le poids du prix à payer pour sauver l'humanité qui a été emprisonnée par le diable à cause de ton péché. Quelqu'un me comprend ici? Donc, les douleurs de la femme sont en fait une préfiguration des douleurs de la croix. Oh, mandarebro, chica, baba. Quelqu'un me comprend ici? Donc quand l'ange vient parler à Marie, il dit la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et un saint enfant naîtra de toi. C'est pour fortifier Marie. Pourquoi la puissance du Très-Haut va couvrir Marie de son ombre? Pour fortifier Marie. Parce que son corps fait de terre ne peut pas supporter le saint enfant qui naîtra d'elle. Il a fallu une péridurale. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia, alléluia. Il a fallu pour qu'elle supporte une péridurale. La puissance du Très-Haut l'a recouverte. Et quand tu penses aux douleurs de la femme, pense aux souffrances de Christ. Ce n'est qu'une ombre, une préfiguration. Imagine maintenant ce que Christ a souffert à la croix. Parce que, en fait, Ève était une figure prophétique de Marie. Au moment où Dieu parlait là, c'était la postérité de la femme. Donc sa fille Marie, des siècles plus tard, même des millénaires, allait rentrer dans l'accomplissement de cette parole. Donc les douleurs de la femme ne sont pas une malédiction. C'est une préfiguration. Tout est en Sion, mais ce n'est pas pareil. Quelqu'un me comprend ici? Alléluia! Mais mon point est celui-ci, et je suis en train de finir avec ça. Le but de Dieu, c'était qu'à travers ça, une postérité qui allait écraser la tête du serpent naisse. Je vous ai dit que le premier homme, la première postérité est née de la terre. Maintenant, voyez, je vous passe les détails. Jésus vient à la croix, il est mort. Donc Jésus est né, il a grandi, il n'a pas péché, il a obéi à Dieu, il est mort à la croix, il est ressuscité, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que le même esprit qui a ressuscité Christ dans les morts va maintenant habiter en nous. Comment? Jésus l'explique à Nicodème. Il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Et Nicodème dit, mais comment moi qui suis fait de terre, je peux encore renaître? Est-ce qu'il faut encore rentrer dans le ventre de ma mère, renaître? Jésus lui dit, non, je vais t'expliquer. En fait, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, ce n'est pas naître à nouveau de la terre. Parce que ce qui naît de la chair est chair. À ça, Dieu en a fini avec. Et Dieu l'a donné pour pâturage au serpent. Donc on en a fini avec cette postérité, c'est fini. Maintenant je te parle d'une autre naissance. Et il dit à Nicodème, il va expliquer pratiquement ce qu'est la nouvelle naissance. Il va dire, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Écoutez la suite. Il dit, car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il y a une séparation entre l'ancien et le nouveau, entre le vieil homme et le nouvel homme, entre la postérité de la terre et la nouvelle postérité. Mais quelle est cette nouvelle postérité? Si la première postérité est faite de terre, la nouvelle postérité est faite de quoi? Jésus l'explique à Nicodème. Il dit, le vent souffle où il veut. On entend seulement le bruit. On ne sait d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Oh, alléluia! Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Jésus est en train de nous révéler ici la nature de la nouvelle postérité, celle qui écraserait la tête du serpent. Elle n'est pas créée de la terre, de la poussière de la terre. Ce n'est pas une postérité qui est mangeable par Satan, par le serpent. Quelqu'un me comprend ici? L'ancien Adam, c'était la terre. Mais le nouvel Adam est un esprit vivifiant. Oh, alléluia! Alléluia! Et il dit, le vent souffle où il veut. Tu entends seulement le bruit. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Ça veut dire que celui qui est né de l'esprit est un vent. Je reprends mon frère, ils ne m'ont pas compris. La première postérité est tirée de la terre. Elle est maudite. C'est fini. La seconde postérité, du second Adam, est née de l'esprit. Et il dit, quiconque est né de l'esprit est ainsi. Le vent souffle où il veut. Tu entends seulement le bruit. Tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Ça veut dire que quiconque est né de l'esprit est un vent. Tu ne sais d'où il vient. Parce qu'il a été tiré d'en haut. Il est né d'en haut. Donc si tu le cherches sur la terre, tu ne peux pas le trouver. Il vient d'en haut. Tu ne sais d'où il va. Il va dans l'éternité. Et il le compare à un vent. Pourquoi? Parce que le vent, tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Tu entends seulement le bruit. Tu sens seulement qu'il y a quelqu'un ici. Alléluia. En d'autres termes, si le vent souffle où il veut, tu ne sais d'où il vient et d'où il va, tu entends seulement le bruit, ça veut dire que le vent est insaisissable. Le vent est invisible. Voilà pourquoi tu ne le vois pas, tu entends seulement le bruit. Voici les caractéristiques de la nouvelle postérité. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia! On peut le mettre dans un endroit vert. Il devient comme un criquet vert, camouflé dans un environnement vert. Le diable ne peut pas le voir, il ne peut pas le saisir exactement comme cela a été depuis le commencement et comme Dieu l'a toujours voulu depuis le commencement. Un être insaisissable, un être immaîtrisable, un être indétectable, un être invisible, un être indominable, un être intuable. Alléluia! On acclame Jésus, on acclame Jésus. Alléluia! Alléluia! Un être incancérable. Alléluia! Un être instérilable. Stérilité. Alléluia! Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Plus fort, plus fort. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia! Oh! Je suis venu te dire ce soir, au commencement, Dieu t'a créé. Mais tu es devenu informe et vide. Parce que le voleur est venu pour dérober la gloire que Dieu avait mise en toi. Et il a détruit ce qui avait été déposé en toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Oh, maintenant Dieu recrée la terre. Il veut faire une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Alléluia. Il recrée un nouvel homme. Alléluia. Afin que cet homme règne avec lui sur la terre, sur une nouvelle terre et avec de nouveaux cieux. Et cet homme-là n'est plus tiré de la terre, mais il est créé par l'Esprit. Cet homme n'est plus poussière, mais il devient un vent. Si le serpent peut manger la terre, il ne peut pas manger le vent. Quelqu'un me comprend ici? C'est pour cela que Jésus dit qu'en fait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Parce qu'il ne peut pas supporter l'air. Parce que, attendez, je ne vous le souhaite pas, mais si on vous laisse comme ça, d'un avion, vous ne pouvez pas tenir dans l'air. Vous êtes précipité, vous absorbé. En fait, c'est la loi de la pesanteur. OK? Newton. C'est ça, non? Voilà. Donc, pour que tu sois suspendu, il faut une deuxième loi. La loi de l'aérodynamique. Qui fait que, finalement, la puissance de la loi de l'attraction n'agisse plus sur toi. Mais s'il n'y a pas la loi de l'aérodynamique, tu ne peux pas résister à la puissance de la loi de l'attraction. Newton marchait comme ça dans un jardin. Et paf, une pomme tombe sur sa tête. C'est quoi l'histoire? Mais pourquoi ça ne s'est pas arrêté là-bas? Pour que ma tête n'ait pas à subir cette douleur. C'est là qu'il se rend compte que non, tout objet qui est lâché en l'air, qui tombe, ne peut résister à la loi de l'attraction. C'est là qu'il a eu la révélation de la loi de l'attraction. Et on enseigne ça à nos enfants à l'école. Ça veut dire que Satan lui-même ne peut rien contre la loi de l'attraction. Mais normal, si on le lâche, il tombe comme un éclair. C'est qu'il ne peut pas lui-même résister à la loi de l'attraction. C'est normal, il n'a rien créé. C'est l'alpha et l'oméga qui maîtrise tout. Et l'apôtre Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas. Parce que le bien, je veux le faire, je n'arrive pas à le faire. Mais je suis attiré, dites attiré. Par ce qui est de la terre. La nature humaine est toujours attirée par ce qui est de la terre. Et aucun être humain ne peut résister à la loi de l'attraction. Quelqu'un me comprend ici? La chair ne peut pas résister à la loi de l'attraction. Et c'est la loi de l'attraction, en fait, qui agit par la tentation. L'homme, l'être humain en lui-même, il ne peut pas résister au péché. Il est toujours attiré par le péché. attiré. Dieu a essayé de résoudre ce problème à travers l'être humain. Il n'a pas réussi. Il a envoyé Noé. Noé, le déluge est arrivé. Dieu a dit, Noé, construis l'arche. Et à travers les eaux du déluge, Dieu a voulu purifier la terre. Mais ça n'a pas suffi. Les gens ont continué à pécher. Dieu a envoyé, je vous passe les détails, il a envoyé les juges. Les juges n'ont pu rien faire. La Bible dit quand vous visez les juges, et le peuple fit encore ce qui n'est plus à l'Éternel. Mon Dieu Seigneur. Et il fit encore ce qui, et encore. Dieu dit, bon, on va changer. Dieu envoie les prophètes. Ah! Les prophètes arrivent. Ils prophétisent la dispensation des prophètes. Les paroles prophétiques n'ont pas suffi. Oh, un prophète aussi puissant comme Samuel. La Bible dit que l'Éternel ne laissait pas tomber une seule parole qui sortait de sa bouche. Aussi puissant était-il. Il n'a pas pu résoudre le problème de la loi de l'attraction. Les mêmes gens, ceux qui donnaient les prophéties, sont les mêmes gens qui péchaient encore. Saül a reçu une prophétie, mais claire. Il dit, arrête de chercher les ânesses de ton père. Retourne. Avec précision, quand tu arriveras au tombeau de Rachel, voilà ce qui va se passer, à telle étape, voilà. Et après ça, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Et l'Esprit l'Éternel descendra sur toi, te saisira, tu seras changé en un autre. My God! Et la Bible dit que quand Samuel a fini de prophétiser, Saül est parti, les choses se sont exactement passées comme il l'a dit. Un prophète ou un puissant, l'Esprit l'Éternel est descendu sur lui. Saül a été changé en autre, il s'est mis à prophétiser aussi. My God! Mais ça n'a pas suffi pour résoudre le problème du péché. La terre attire la terre. La chair est toujours attirée vers la terre. Les choses de la terre, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, le péché sous toutes ses formes, les œuvres de la chair sont attachées à la terre. Je vais te dire que même quand tu reçois des révélations de Dieu, ça ne suffit pas pour être délivré toi-même du péché. Ah, l'homme n'a pu rien faire. Dieu a envoyé après les prophètes, il a envoyé les rois, les sacrificateurs qui ont commencé à faire la préfiguration de ce qui devait arriver. Ils devaient se nettoyer eux-mêmes, se laver eux-mêmes, se sanctifier eux-mêmes et puis maintenant sanctifier le peuple à travers un rituel. Il a établi les Lévites. Vous connaissez toute l'histoire, vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir tout le sacerdoce, toute la sacrificature, tout ça. Rien n'a réussi à arrêter ou à maîtriser la puissance et le pouvoir de la loi de l'attraction. Tout être humain est toujours attiré sur la terre. Satan lui-même le premier, comme un éclair. Il voit une belle figure, lui aussi. Même Abraham, le patriarche, il n'a pas réussi à résister à Agar. Pourtant, même le nom lui-même te dit Gare. Gare, Abraham, Gare, mon Gare. Gare à toi. Malgré ça, la loi de l'attraction l'a tiré vers Agar. Il a trouvé pour prétexte que non, c'est Sarah qui m'a dit de partir. Tu ne pouvais pas refuser. Tu n'attendais que ça. Honnêtement, même si c'est ta femme qui te dit vas-y, toi, tu peux dire ah, ma femme, là, vraiment, c'est le désespoir. Hein? Non, je sens que là, vraiment, tu es désespéré, mais je crains Dieu. Ça veut dire que s'il est parti aussi vite, hein, c'est qu'il attendait ça depuis. Hein. Quelqu'un me comprend ici? Bon, on ferme la parenthèse. Même Isaac, ils étaient tous quasiment polygames. Ils n'ont pas pu résister à la loi de l'attraction. Quelqu'un me comprend ici? C'est quoi la solution? La solution, c'est la postérité de la femme. Alléluia! Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Quand l'apôtre Paul dit, je fais toujours le mal que je ne veux pas faire. Je suis toujours attiré vers la terre, les choses de la terre. Qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps de terre? Écoutez la suite. Il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia! Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oh! L'apôtre Paul a vu la loi de l'apesanteur avant Newton. Il l'a lui-même expérimenté dans sa chair. Mais Newton n'a pas reçu la révélation que l'apôtre Paul a reçue. Quelqu'un me comprend ici? La loi de la pesanteur, c'est la loi qui t'a tiré vers la terre. C'est la loi du péché et de la mort. Pour que tu sois suspendu en l'air, quand on te lâche, il te faut une autre loi contraire, la loi de l'aérodynamique. Et quand Jésus parle du Saint-Esprit, est-ce que je prêche? Il dit, vous recevez une puissance. Le mot puissance est traduit en grec par dynamis, aérodynamique. Donc, le Saint-Esprit est la loi contraire qui vient contrer la loi de la pesanteur. Voilà pourquoi il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, car la loi, de... là il veut la voix, la lumière. Au moment où il se disait, Seigneur, qui me délivrera? L'Esprit lui ouvre les yeux et dit, voici maintenant la solution. Il voit la loi de l'Esprit de vie, alléluia, à travers le sacrifice et la croix, par Jésus-Christ. Et il dit maintenant, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'une solution a été trouvée. D'être frère, une solution a été trouvée. Une solution a été trouvée. Car maintenant, la loi de l'Esprit de vie, dans le Christ Jésus, m'a franchi de la loi du péché et de la mort. On peut me lâcher comme ça. Paf, je ne tombe pas. Je surfe dans l'air. Oh! C'est pour cela qu'il a dit. Vous voyez Satan tomber, c'est comme un éclair. Mais à vous, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, et rien, et rien, et rien ne pourra vous nuire. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir de marcher sur les lois de la terre, les lois de la pesanteur, vous a été donné.